Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'Empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Sapi, le directeur de FAIRE, directeur général de FAIRE, anciennement FinanSol, après fusion avec ILAB, l'association dont l'objectif est de promouvoir la solidarité dans la finance et l'épargne, notamment avec son label. Et je suis ravie de t'accueillir ici dans le nouveau studio.
Merci Alice.
Bon, parle-moi un peu de la finance solidaire parce que globalement, on entend finance verte, finance responsable. La finance solidaire, ça n'a pas forcément ce pendant écologique.
Non, il y a plusieurs types de finances. Parfois, les finances s'embriquent les unes dans les autres. Et effectivement, il faut un peu de décryptage. Alors, la finance solidaire, c'est une finance qui est née dans les années 70-80. D'abord, initiée par des citoyens, notamment dans les mouvements de solidarité internationale, qui, en fait, avaient envie de mobiliser leur argent et leur épargne au service de causes qui leur importaient. Et à ce moment-là, en fait, quand elle est née, c'était la solidarité internationale, donc en fait des projets essentiellement de microcrédit dans les pays en développement. Et c'est le CCFD, donc le Comité catholique contre la faim et pour le développement, qui a théorisé, mais aussi mis en pratique les premières expériences de finances solidaires en créant des produits financiers, donc des fonds, où les particuliers pouvaient investir pour financer des projets de solidarité internationale. Et en fait, c'est de là où est partie la finance solidaire. Et puis, dans les années qui ont suivi, en fait, beaucoup d'organisations plutôt de solidarité, notamment au début des années 90, où là, pour le coup, notre pays, la France, était confronté à une hausse massive du chômage. On a vu, des produits financiers divers et variés, plutôt utilisés pour récolter de l'argent, pour lutter contre le chômage. Et en fait, les acteurs financiers et les acteurs de l'économie sociale et solidaire se sont entendus pour créer des vrais produits financiers pour financer cette solidarité-là envers un public cible. Donc, dans les années 80, c'était plutôt les micro-entrepreneurs qui créaient une petite activité économique. Dans les années 90, c'est tout l'essor de l'économie solidaire. Donc, c'est plutôt les chômeurs, les gens qui étaient en précarité. Et donc, c'est pour ça que ce terme de finance solidaire est resté et s'est développé maintenant depuis plus de 30 ans.
Donc, j'imagine que tu vois une diversité de ces produits financiers solidaires qui émergent.
Oui,
et une demande un peu différente par rapport à avant. C'est évolutif.
Oui, ça commence à toucher tous les sujets. D'ailleurs, y compris les sujets liés au dérèglement climatique maintenant.
Bon, on parle de RSE. Donc, RSE, voilà, il y a social et environnemental.
Tout à fait. Mmh. Et la finance solidaire recoupe bien ces deux aspects-là. Elle puise ses racines plutôt dans le social, c'est son ADN, mais évidemment, elle est concernée par tous les problèmes de l'humanité, et en premier lieu, le dérèglement climatique. Et puisque les financiers se sont aussi essayés à trouver des produits verts, la finance solidaire s'en est aussi emparée en créant des produits solidaires, mais qui ont en fait un impact écologique fort.
Puis comme me disait Yann Arthus-Bertrand, quand on aime l'homme, on aime la planète, et quand on aime la planète, on aime l'homme. Donc en général, on retrouve les mêmes qui vont épargner, enfin qui vont allouer leur épargne dans la finance verte et dans la finance solidaire. En général, ceux qui veulent donner du sens à leur épargne vont choisir des produits financiers solidaires ou verts.
Tout à fait. Et en fait, ça dépend de chacun, parce que chacun a ses
c'est marottes, combat,
voilà, c'est combat, si j'ose dire. Les causes qui lui importent peuvent être différentes. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que en fait, les acteurs financiers, mais poussés en fait par les mouvements citoyens et les militants, se sont emparés de ces sujets-là et ont créé finalement des produits financiers qui correspondent au combat des gens.
Alors, c'est pas toi qui as créé le label, mais pourquoi avoir besoin d'un label? C'est pour certifier justement que les produits correspondent à un cahier des charges?
Alors, c'est la suite logique de ce que j'ai expliqué au tout début. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les acteurs se sont dit, bon, en fait, les acteurs financiers ont créé des produits. On a nous-mêmes, par exemple, ouvert notre capital en tant que coopérative, association
parfois. Oui, c'est bien de le rappeler. C'est une association, du coup.
Absolument, c'est une association sans but lucratif. Donc, loi, c'est bien de loi le rappeler, 1901, ouais. Absolument. Alors, c'est une fédération d'acteurs, je le rappelle également, l'association regroupe près de 120 adhérents différents, et alors on trouve là-dedans des banques, des gestionnaires d'actifs, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des institutionnels, des personnes physiques. En fait, toutes les organisations et les personnes pour qui la finance solidaire veut dire quelque chose.
Tout le monde est bienvenu, en fait.
Oui, tout à fait. Alors, on est assez regardant sur qui rejoint le réseau. Parce que, en fait, on lutte, comme beaucoup, contre le greenwashing et l'impact washing.
Donc, l'impact washing, mais c'est vrai qu'il y a ce nouveau terme qui a émergé aussi.
Terme qui apparaît là depuis quelques mois maintenant. Et donc, on est assez vigilant envers qui on accueille au sein du réseau. Mais pour peu, effectivement, qu'il y ait une vraie envie de partager nos valeurs, de partager aussi avec les autres, ça, c'est important. Et alors, pour revenir au label, FAIR, c'est une association de praticiens, des gens et des organisations qui ont des expériences diverses et variées, alors soit en ouvrant leur capital, soit en créant des produits financiers. Puis à un moment donné, ces praticiens se sont dit, ce qu'on fait, c'est quand même pas mal. On va essayer d'abord de le faire savoir. Et puis surtout, on va essayer de protéger ce qu'on fait.
Un label permet de se faire savoir, justement, promouvoir.
Un label, ça s'utilise beaucoup pour la notoriété. Et en fait, le label FinanSol s'appuie sur deux principes fondateurs, qui est d'abord la solidarité, donc on en parlait tout à l'heure. Donc en fait, les produits financiers ont une action solidaire envers un public cible, envers la planète, évidemment. Et puis, le deuxième aspect du label, et ça c'est très important pour nous, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'on va demander aux acteurs financiers qui mettent au point des produits de bien certifier à l'épargnant, finalement, que son argent, il est bien utilisé pour les causes ou les combats, comme tu disais tout à l'heure, qu'il a choisi.
Et comment ça se matérialise? Typiquement, imaginons que je sois un épargnant et que mon épargne aille dans un fonds qui a ce label. Comment est-ce que je suis assurée de la traçabilité de mon épargne?
Alors, la traçabilité, elle est assurée d'une manière simple, c'est le label. Par contre, le label, derrière, il y a des gens qui bossent. Et en fait, chaque année, par exemple, l'association FAIR, qui gère le secrétariat du label, va demander aux établissements financiers en question de transmettre toutes les données financières sur d'où vient l'argent et où va l'argent. Et donc, moi, j'ai des équipes qui travaillent avec moi et qui, chaque année, scrutent scrupuleusement pour chaque produit financier. Il y en a 169 aujourd'hui. D'où vient l'argent et où va l'argent? Et on fait ce contrôle chaque année, et pas tous les 2-3 ans. On le fait chaque année.
C'est important pour l'épargnant, parce que si justement il donne du sens à son épargne, il a besoin de savoir où ça va.
Exactement, et c'est ce que garantit le label. En fait, le label, il garantit qu'il y a une équipe derrière qui bosse, qui a les données et qui fait correctement son travail. Et c'est pour ça que ce label, nous considérons qu'il a de la valeur. Il a une très forte exigence. C'est un tout petit label par rapport aux deux gros autres labels publics qui existent, le label ISR et le label Greenfin. C'est un petit label. C'est le premier label financier qui a été créé en France. J'aime beaucoup le rappeler. Avant, les deux labels ISR et Greenfin n'existaient pas. C'est un label de praticiens, donc d'opérateurs.
C'est un label payant.
Alors, c'est un label payant.
Parce qu'il faut, beaucoup de labels restent payants quand même.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, derrière un label, je le disais tout à l'heure, il y a des équipes qui bossent. Et en fait, pour être bien sûr que les produits financiers répondent aux exigences du cahier des charges, il faut qu'il y ait des gens qui bossent.
Tout travail mérite salaire.
Et donc, effectivement, ce label, il est payant. Il y a une contribution qui est payée par les établissements financiers ou les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui bénéficient du label.
Donc, tout le monde ne peut pas finalement avoir le label, mais parfois, on remplit tout le cahier des charges, mais on ne peut pas l'avoir. Ça reste vrai comme avec n'importe quel label. On le voit en bio, pour l'agriculture biologique, typiquement, il y a plein d'agriculteurs qui ne peuvent pas se permettre d'avoir des labels.
Tu veux dire pour des questions de moyens financiers?
Oui, exactement.
Alors, on a une tarification qui est très adaptée, en fonction de qui demande le label. Voilà, donc ça, on va refaire un travail. C'est pas la tête du client, mais on va dire
que
c'est selon les capacités de contribution des uns et des autres. Il est bien évident.
Donc ça reste quand même dans la dynamique d'inclusion du label.
Bien
de
sûr,
base,
parce qu'en fait, ce label, il a beaucoup servi notamment aux petites entreprises de l'économie sociale et solidaire qui démarraient et finalement qui ne pouvaient pas accéder finalement.
Oui, puisqu'en fait, ça leur permet de communiquer. C'est ce que tu disais.
Ça leur permet de communiquer, important. Ça leur permet d'accéder au financement parce que en fait, le fait, par exemple, pour une coopérative qui démarre de labelliser ses parts sociales, eh bien, elle peut garantir à un épargnant particulier qui voudrait investir dans cette coopérative-là, du fait qu'il y a label, que cet argent il est bien utilisé pour l'objet social de l'organisation en question. Ça permet aussi à des investisseurs institutionnels d'investir dans ces petites organisations parce que justement, elles bénéficient du label. Et donc, le label a contribué au développement en fait, de beaucoup d'organisations qui sont devenues grosses aujourd'hui parce qu'elle leur a permis de lever des fonds, parce qu'il y avait cette marque de confiance vis-à-vis du grand public.
Donc, c'est un investissement qui reste héroïste quand même pour elle.
Héroïste, tout à fait.
C'est le jargon pour dire rentable.
Oui, tout à fait.
Et alors, moi, en tant qu'épargnant, il y a souvent un peu ce biais cognitif qui dit que, tiens, si j'épargne dans un fonds solidaire, c'est peut-être moins rentable. Comment tu peux assurer ça, la rentabilité? Est-ce que finalement, on donne plutôt plus de sens que de rentabilité? Si on veut faire du cash, bah, clairement, on peut aller vers des fonds qui font du cash. Et voilà, c'est une autre dimension.
Ben, c'est une excellente question. Alors, faire en tant qu'organisation, c'est vraiment positionné, on dit aussi dans le jargon, comme étant une organisation impact first.
On va mettre, les petits astérix en bas de l'épisode. Alors, impact first, impact washing, héroïste.
Exactement. Et donc, impact first, ça veut dire qu'en fait, l'ensemble des membres de l'organisation privilégie plutôt l'impact que le rendement. Cela étant dit, les produits financiers qui sont labellisés financiels présentent des rendements qui sont similaires en fait, aux autres produits financiers. En l'occurrence, tout dépend en fait du produit que vous allez souscrire. Il est bien évident qu'un livret vous rapportera aujourd'hui peu d'intérêt, y compris d'ailleurs un livret labellisé FinanSol, c'est-à-dire que ça sera dans la moyenne des livrets. Et par contre, si vous investissez dans un fonds solidaire, là, évidemment, les rendements peuvent être différents. Alors, ils dépendent aussi des marchés financiers, ça c'est important aussi de le rappeler, parce qu'en fait, la législation française, notamment sur les fonds solidaires, ne prévoit que 10% du montant des fonds investis dans des actions solidaires. En fait, pourquoi il y a ce ratio de 10%. Tout simplement, ça a été une demande du régulateur pour protéger l'épargnant. Il faut savoir que ces fonds-là, quand on investit dans l'économie sociale et solidaire, ce sont généralement des fonds à long terme. Donc, l'épargnant, il peut les récupérer tout de suite, il n'y a pas de problème, mais les gestionnaires d'actifs s'arrangent, en fait, pour qu'il y ait de la liquidité en permanence. Et donc, ils complètent les fonds solidaires par des actions, des obligations, qui sont elle gérée selon une méthode, nouveau jargon, nouvel acronyme ESG, donc ESG pour environnement, social, gouvernance, donc selon des critères extra-financiers assez exigeants, on va dire ça comme ça, de manière à pouvoir, d'une part, générer de l'impact au travers les 10% qui sont investis dans les entreprises d'utilité sociale et générer du rendement au travers de la sélection de titres financiers plus classiques, mais sélectionnés d'une manière extra-financière plutôt exigeante.
Et justement, comme on le voit avec tout le jargon qu'on utilise tous les deux, là, comment tu arrives à démocratiser ce sujet, à le rendre hyper accessible pour tous les citoyens, parce que tout le monde n'a pas cette connaissance de la finance et tous les épargnants sont plutôt des consommateurs de base, des
absolument.
Personnes. Alors, comment t'arrives à rendre ça accessible?
En fait, on communique jamais sur l'arrière-boutique. Enfin, l'arrière-boutique, c'est bien de communiquer au travers du label, c'est-à-dire les deux piliers dont je parlais, transparence et solidarité. Et en fait, moi, je trouve que la finance solidaire, sa meilleure pédagogie, ce sont les projets qu'elle finance.
C'est ça, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir, je pense, de matérialiser ça. Est-ce que tu as des exemples concrètement de réussite de projets ou de, que, par exemple, le dernier que tu as communiqué, je ne sais pas lequel c'est.
Oui, alors, par exemple, là, tout à l'heure, en sortant du studio.
Ah bah, tu vois, le dernier, on est vraiment.
Voilà, j'ai un rendez-vous avec une coopérative qui s'appelle la RailCop. Et RailCop, c'est une coopérative qui a été créée il y a quelques mois maintenant. quelques années peut-être, et qui a la vocation de, en fait, refaire revivre des lignes de chemin de fer qui ont été abandonnées par la SNCF, de manière à recréer de la cohésion territoriale.
Et puis de la mobilité durable.
Et de la mobilité durable, évidemment.
On retrouve de l'écologie.
Tout à fait. Et donc, par exemple, un de ces projets, c'est de ressusciter la ligne de chemin de fer entre Lyon et Bordeaux, qui est une ligne qui a été abandonnée dans les années 90 par la SNCF. Donc, si vous voulez aller de Lyon à Bordeaux, aujourd'hui, alors soit c'est très compliqué, soit vous avez des ruptures de ligne si vous voulez passer par le Massif central, soit il faut que vous passiez par les lignes à grande vitesse, et donc par Paris, en l'occurrence, pour redescendre à Bordeaux quand vous habitez à Lyon, ce qui est un non-sens écologique.
Un non-sens tout court.
Voilà. Et en fait, il y a plein de petites gares sur ce parcours, finalement.
C'est deux grandes villes, c'est incroyable.
Abandonné. Et en fait, un des sujets de RailCops, en fait, c'est de refaire vivre cette ligne-là. Et donc, mais aussi les gares qui vont avec ça.
Mais
donc,
oui, il y a d'autres personnes qui vont prendre le
les
train.
Les villages, puis... les villes moyennes, en fait, qui sont sur ce parcours-là. RailCop a fait une levée de fonds, et a pu bénéficier du label, puisqu'on a labellisé les parts sociales de RailCop en fin d'année 2020, si je ne me trompe pas. Eh bien, pour, en gros, exploiter ces lignes-là, acheter du matériel, rénover du matériel si le matériel est acheté d'occasion, et donc refaire vivre, en fait, de la cohésion territoriale. Donc ça, c'est un exemple, en fait, qui a pu être financé par la finance solidaire, justement. Un deuxième exemple, c'est celui qu'on connaît un peu plus, c'est celui d'Habitat et Humanisme, qui construit des logements pour des personnes qui sont très précarisés et qui ne peuvent pas se loger, à des prix extrêmement compétitifs. Pour construire ou réhabiliter des logements, il faut du capital. Et donc, Habitat et Humanisme lève très régulièrement des fonds. Ils sont en train de faire une levée de fonds, là, en ce moment. Ils essaient de lever 25 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable, pour, du coup, construire des nouveaux logements accessibles à des personnes très éloignées de l'emploi ou très précarisées, qui pourront, du coup, retrouver un logement et donc retrouver un emploi, souvent.
C'est génial. Je trouve que ça donne beaucoup de sens. Et moi, j'aime bien les exemples concrets, parce que vraiment, on sait exactement où ça va, et c'est hyper important. Et là, il y a le mois de l'ESS, d'ailleurs, de la finance responsable même, là, qui c'est en novembre, ça commence le 8, c'est ce que tu me disais.
Alors, effectivement, donc novembre, c'est le mois de l'ESS, et donc la semaine de la finance solidaire,
ah oui,
pour
il y a
le
une
coup,
semaine, c'est ça, dédiée.
Effectivement, aura lieu du 8 au 15 novembre 2021. Et en fait, partout en France... chaque citoyen pourra justement aller à la rencontre des acteurs locaux.
Elle sera où d'ailleurs
Elle est partout en France. D'accord. En fait, il suffit de se connecter au site de FER et du coup, pouvoir avoir la liste et la carte de tous les événements. Il y a une grande campagne d'affichage que vous allez retrouver dans les grands lieux publics, les gares, les cinémas. Si vous, il y a un petit spot de cinéma qui est également en cours de tournage. Et donc, si vous allez au cinéma avant votre film, vous aurez normalement accès au spot en question. Et on a voulu que cette campagne, elle soit en fait... qu'elle rende hommage finalement aux épargnants et que ces épargnants-là montrent la fierté qu'ils ont et qu'elles ont, en l'occurrence, de ce que fait leur argent d'un point de vue sociétal. Et
donc elles vont carrément à la rencontre des acteurs des associations, etc., derrière, ou des...
En fait, la campagne, elle est axée plutôt sur les épargnants.
D'accord.
L'idée, c'est de faire passer à l'action, finalement, oui, les épargnants. Parce que, en fait, cette finance solidaire, aujourd'hui...
Aujourd'hui, tout le monde a envie de passer à l'action. C'est juste qu'on n'a pas l'information en général, j'ai l'impression.
Et en fait, la campagne, elle sert surtout à ça, c'est-à-dire de mobiliser les épargnants en disant, en fait, d'autres l'ont fait. Pourquoi par vous?
C'est
et regardez concrètement, en fait, ce qu'on peut faire de votre argent.
Surtout qu'avec la pandémie, les Français ont beaucoup, beaucoup épargné. Hein. Je crois que là, ils se rattrapent bien. Mais je crois qu'ils avaient beaucoup, beaucoup épargné et que du coup, c'est intéressant quand c'est comme ça de pouvoir contribuer à de jolis projets. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose avant de conclure cet épisode?
Alors, moi, ce que j'aurais envie de rajouter, c'est que... en fait, il faut changer d'échelle et donc il faut passer à l'action. Et moi, ce que j'aurais envie de dire à chaque personne qui écoute l'émission, c'est de dire que, en gros, si vous mettez 1% de votre épargne dans des projets d'utilité sociale, eh bien déjà, vous nous faites changer d'échelle. Parce qu'aujourd'hui, l'épargne solidaire, c'est 0,3% du patrimoine financier des Français. Alors, c'est une épargne qui grossit très vite, les taux de croissance sont impressionnants, mais elle est encore toute petite. Elle a été au début réservée à un cercle de militants, mais elle doit s'étendre et donc changer d'échelle. Donc à chaque épargnant qui nous écoute, je dis, si vous mettez un euro sur les 100 euros que vous épargnez dans des projets d'utilité sociale, eh bien vous améliorez carrément l'impact que vous pouvez avoir sur les gens et sur la planète.
Je vais garder bien ton chiffre en tête parce que ça m'intéresse et je trouve ça génial et c'est très parlant. Un euro, simplement un euro sur 100, 1%. Si vous voulez mettre 10 millions, vous pouvez aussi prendre 1%. Ils ne seront pas contre. Merci beaucoup Patrick d'être venu dans l'empreinte. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.